Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Et au sommaire aujourd'hui, l'Andalousie avec l'arrivée de l'extrême droite au Parlement.
Oui, les deux partis traditionnels en déconfiture et l'entrée de 12 députés d'extrême droite au Parlement d'Andalousie, ce sont les deux principaux enseignements de l'élection provinciale de dimanche dernier en Espagne. Elle devait être un test pour le Premier ministre Pedro Sanchez. Elle se transforme peut-être en avertissement pour l'Europe. On voit ça avec vous, Cyril Trépied, bonjour.
Bonjour Xavier Martinet.
Géographe, chercheur au Centre de Recherche et d'Analyse Géopolitique de Paris 8, auteur récemment de l'indépendance catalane en question. Les Andalous, eux en tout cas, ont fait l'histoire et se sont débarrassés de 36 ans de régime socialiste. C'était le ton du chef de parti d'extrême droite Vox, alors que c'est une vraie défaite du parti socialiste andalou qui perd 14 sièges, probablement la région. Et surtout, c'est une vraie surprise par rapport au sondage. Comment est-ce qu'on explique ça?
Alors, on explique ça par effectivement cette hégémonie du Parti socialiste, cette absence d'alternance depuis 1982 en sa faveur, mais ça n'explique pas forcément le maintenant. Ce qui explique le maintenant en grande partie, c'est très certainement la gravité de la crise catalane qui a été très présente dans la campagne électorale andalouse, et ce qui peut expliquer aussi cette entrée fracassante de Vox qu'effectivement aucun sondage ne laissait mesurer, c'est l'importance de la question de l'immigration en Andalousie, qui est la communauté autonome la plus concernée par ce phénomène.
Oui, puisque c'est la plus exposée sur la frontière sud, première en accueil, première en contact de bateau. Alors, il y aurait conjonction deux phénomènes, c'est un peu ça, à la fois le PSOE en perte de vitesse, on a beaucoup parlé du clientélisme, est-ce que c'est vraiment ça, disons qu'il a miné, et puis Vox qui donc aurait prospéré sur les thèmes anti-immigration principalement.
Alors, anti-indépendantiste catalan et anti-immigration, et effectivement, le pouvoir prolongé plus de 30 ans du PSOE en Andalousie est aujourd'hui synonyme de corruption. Alors le PSOE n'a pas perdu tous ses appuis dans la région la plus peuplée d'Espagne, mais il y a quand même d'importants scandales de corruption touchant ce parti dans cette communauté autonome qui a été l'un de ses principaux bastions.
Et quand même, je parlais de surprise, c'est vrai qu'avec Vox, il y a quand même une progression qui est insoupçonnée, assez spectaculaire. Donc là, 12 sièges, alors que les sondages lui donnaient 5% maximum, on peut se demander où est l'erreur. Et puis, surtout, il est passé de 0,46% des votes en mars 2015 à 11% aujourd'hui. Alors, vous avez dit la question migratoire, l'affaire catalane aussi, on en a peu conscience, mais ça a tant pesé que ça pour ce parti ?
Oui, je pense que ça a beaucoup pesé. Il faut comprendre que c'est effectivement un résultat beaucoup plus important qu'en 2015 pour Vox, mais que toute la vie politique de ce parti ne se joue absolument pas dans les élections. Le parti a été très présent dans les manifestations qui ont pu avoir lieu sur la question de l'indépendance catalane. Il est de plus en plus présent dans les médias. Il faut savoir qu'il y a des chaînes franchement d'extrême droite sur la TNT espagnole et que Vox, avec d'autres partis, en a profité. Et il faut comprendre que tout cela se passe dans un pays, l'Espagne, où le degré d'autonomie de chaque région, et en particulier la Catalogne, est observé de très près dans l'ensemble des autres, et particulièrement en Andalousie, où était partie en 1980 la généralisation des autonomies à l'échelle de l'Espagne.
Oui, ce qui veut dire que Vox a été un peu échaudé. Oui, ce qui veut dire que Vox a été, disons, échaudé par l'affaire catalane, ou alors qu'il n'a pas forcément envie de voir d'autres demandes amoindrir les siennes en Andalousie, sachant que là aussi, il y a des problèmes budgétaires, par exemple, qui se posent.
Oui, c'est ça. Et puis, il y a surtout l'idée de ne pas avoir moins que une communauté autonome comme la Catalogne. C'est un sentiment très fort.
Et alors, pour la question un peu plus immédiate pour l'Andalousie, c'est donc la nouvelle prise de fonction des députés le 27 décembre. Quel type de gouvernement il peut y avoir avec ce PSOE très affaibli, il a personne de toute façon à la majorité de 55 députés sur les 109 de ce Parlement. Mais est-ce qu'il y a vraiment une impossibilité de coalition encore autour du PSOE? Lui, il a 33 sièges. Si on rajoute les 17 de Izquierda Unida, donc la coalition de gauche, on arrive à 50 tout de même.
on arrive à 50, ce n'est pas encore les 55 et c'est tout le problème. Il n'est pas impossible que Ciudadanos réitère son pacte de 2015 avec le PSOE, mais ça reste très incertain parce que une partie de la campagne de Ciudadanos a précisément porté sur l'alternance qui n'avait jamais eu lieu jusqu'à présent en Andalousie.
Et alors maintenant, qui est-ce qui est le vrai pivot de ce Parlement? Est-ce que c'est le Parti populaire qui arrive deuxième mais quand même en déclin, hein, il perd 7 sièges, ou alors est-ce que c'est Ciudadanos la valeur montante, hein, comme ils l'ont souligné?
C'est probablement Ciudadanos. Le Parti populaire a déjà dit que un pacte avec Vox lui conviendrait, mais là non plus, ça ne réunirait pas les 55 sièges requis pour la majorité absolue. Donc effectivement, le pivot, à mon sens, c'est Ciudadanos, qui souhaite, comme Vox, mais avec nettement plus de force et de chance, gouverner non seulement l'Andalousie, mais aussi vite que possible l'Espagne.
Et de ce point de vue-là, de toute façon, un pacte avec Vox et le Parti populaire, ce serait une alliance inédite dans la vie politique espagnole. Et c'est ce qui fait qu'on dit que l'Espagne s'aligne, disons, sur la tendance européenne. Vous seriez assez d'accord?
Oui, alors, bon, bien sûr, le Rassemblement national voit ça d'un très très bon œil.
Oui, il y a eu les félicitations de Marine Le Pen, oui.
Absolument, à Santiago Abascal. Mais il est certain que l'idée que certains pays seraient des sanctuaires face à l'extrême droite est clairement affaiblie avec cette élection territoriale andalouse.
Et alors, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre au plan national, étant donné qu'il y a une série d'élections quand même pour la vie politique espagnole, donc les européennes 26 mai et en même temps municipales et régionales, et peut-être, selon le poids de Sanchez à ce moment-là, des élections anticipées? C'est sûr que là, on pourrait dire que le PSOE est en sursis.
Il était déjà dans une situation très difficile avec les nombreux pactes qu'a exigé sa motion de censure. C'est vrai qu'il a réussi ce que personne n'avait réussi jusqu'à présent, faire triompher une motion de censure. Mais depuis, il est dans une situation très difficile, notamment autour de la crise catalane, entre précisément ceux qui veulent l'indépendance catalane et qui fondamentalement ne transigeront pas, et ceux qui, au contraire, trouvent que tout geste envers ces partis est absolument inutile et dangereux.
Oui. Et qu'est-ce qui menace alors le plus Pedro Sanchez? Est-ce que c'est le fait, justement, comme vous l'avez suggéré, qu'il est venu au pouvoir sur une motion de censure, c'est-à-dire finalement sur ses uniques légitimités, hein, sans avoir passé un vrai rendez-vous électoral, ou alors le fait qu'il est menacé effectivement par Ciudadanos et puis Podemos aussi un peu à l'affût, hein, puisqu'Iglesias a lancé une alerte antifasciste, comme il dit Pablo Iglesias?
Oui, mais alors, Pablo Iglesias pourrait aussi penser à l'intérêt qu'il y avait à ne pas faire de vraies coalitions de gauche dans cette élection andalouse, parce que le résultat était franchement négatif pour l'ensemble des forces de gauche. Mais oui, c'est une série de menaces simultanées. Le PSOE n'est effectivement pas... Il est arrivé au pouvoir absolument légalement, mais autrement que par une élection. Et il n'est pas du tout certain qu'une élection confirmerait son pouvoir.
Oui, avec 84 voix seulement pour lui-même sur les 350 à Madrid, et puis une coalition vraiment assez hétéroclite avec 6 partis. Pour Vox, alors, est-ce qu'une nouvelle percée ou une extension, là encore insoupçonnée vraiment d'ici mai 2019 ou après, est possible selon vous? C'est vrai qu'il y a eu une manifestation à Madrid, hein, de ce parti avec 10 000 personnes le 7 octobre. C'est peut-être un signe?
C'est peut-être un signe, mais c'est sûr que les élections européennes font clairement partie de sa stratégie. Mais il faut bien comprendre que l'extrême droite n'a aucun mal à mobiliser dans la rue. Son problème habituellement, c'est effectivement, comme l'a fait Vox, mais c'est pas l'habitude d'obtenir des sièges de députés.
Ouais, mais il y a pas une sous-évaluation quand même, parce que je crois qu'il y a certains sondages qui ne lui donneraient qu'un siège à Madrid en cas d'élection anticipée. D'autres chercheurs parlent de 5 ou 6 quand même.
Il est il est certain qu'il ne faut pas, là, pour le coup, se reposer sur les sondages en pensant que la percée de Vox est limitée à l'Andalousie. Vox s'est présenté en Andalousie en attendant, évidemment, de se présenter à l'échelle de l'Espagne. Et d'ailleurs, avec un programme électoral qui n'était pas taillé particulièrement pour l'Andalousie. Mmh. Il a eu 12 sièges.
Mmh. Eh bien, vous faites bien de le rappeler. Et en tout cas, on suivra tous les débats, certainement, et puis l'arrivée des députés jusqu'au 27 décembre. Merci pour vos explications aujourd'hui. Merci Cyril Trépied, je rappelle, géographe et chercheur au Centre de Recherche d'Analyse Géopolitique de Paris 8. On renverra à votre livre sur le site L'indépendance catalane en question aux éditions Atlante. Merci et bonne journée.